Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde du cinéma.
Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film.
C'est un scandale! Un scandale!
Nous déclarons...
Ouvert.
Ouvert.
Salut à tous, c'est David Honora en direct du Festival de Cannes et ses séances radio spéciales Cannes avec Nos Ciné. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et sur le réseau Binge Audio. Alors aujourd'hui, je suis avec Lucille Bélan. Salut Lucille.
Bonjour.
Et puis Daniel Andreev, chaud comme la braise.
Chaud bouillant David.
Donc voilà, c'est un podcast qui va sentir le sable chaud et les accréditations de toutes les couleurs. On va essayer de parler un peu au jour le jour de ce 70e Festival de Cannes. Et au programme aujourd'hui, essayer de parler un petit peu de nos attentes, de ce qu'on va essayer de retrouver tout au long des 10 jours. Et puis, en fin de podcast, on vous parlera du film d'ouverture « Les fantômes d'Ismaël » d'Arnaud Desplechin. Alors, qui commence ? Peut-être, Daniel, qu'est-ce que tu attends de ce 70e festival ?
Alors déjà, je vais resituer un truc, c'est que c'est mon premier festival de Cannes. J'ai fait des milliards de fois le Tokyo Game Show, tous les Comic-Con du monde, mais c'est mon premier festival de Cannes, donc je suis vraiment un noob. Les gens m'expliquent comment prendre les files d'attente et tout, et c'est assez réjouissant d'être le noob alors que t'approches de la quarantaine.
C'est quoi tes premières impressions ? Tu viens d'arriver ?
Alors, je vais te dire un truc, il y a un point commun avec Cannes, avec tous les autres festivals au monde et tous les autres salons au monde, c'est que les gens disent « c'était mieux avant ». C'est genre « si seulement t'avais connu il y a 15 ans, il y a 20 ans, on entrait dans telle soirée, on avait « putain, j'ai pris un café avec Coppola », enfin tu vois, des trucs comme ça. Et donc ouais, voilà, quoi qu'il arrive, aujourd'hui ça a changé, c'est plus la même chose. Et voilà, moi c'est mon year one, donc je profite à fond. Et je n'ai Dieu que pour Okja. J'attends Okja avec une énorme impatience parce que Bong Joon-ho, c'est mon... sans doute mon réalisateur préféré vivant, en tout cas. C'est vraiment, j'adore Bong Joon-ho, je pense que c'est un génie. Et il avait pris un peu tout le monde de court avec Snowpiercer, et là je le sens bien. Il y a un petit peu, tout le monde en parle parce que c'est le film qui a failli être exclu, alors que c'est le film que tous les cinéphiles...
Qui a failli être exclu parce que c'est un film Netflix.
Ouais. Et du coup, tout le monde envie un peu qu'il ait la palme, en fait. Si t'interroges les gens, ils disent « Okja, pas simple, c'est facile à prononcer parce que c'est bisyllabique. C'est vraiment parce que tout le monde y croit. Et je crois que j'ai envie d'y croire. J'ai envie que ça soit le plus grand film de tous les temps, en fait. Voilà,
ce point-là. Petite attente.
Oui, un petit peu. Et puis sinon, il y a quelques films. Je me suis fait une shortlist, comme tout le monde, en fait. C'est ça, il faut être discipliné, il faut se faire... des listes de films, surtout quand c'est des histoires de pastilles. Alors t'as les bleus, t'as les roses qui sont les méga VIP, t'as les blancs, t'as les or, il y a des couleurs différentes sur les logos. Alors j'ai choisi Mugen no Junin, et je sais très bien que, en fait, parce que j'aime bien aussi troller, je pense que ça sera pas bien. C'est Takeshi Miike qui fait une adaptation d'un manga qui s'appelle L'habitant de l'infini. Et je sens que ça va pas être bien. L'acteur principal, il a pris un chanteur de SMAP, qui est un groupe de J-pop, qui est un peu passé de mode. Mais ils l'ont payé très cher, et ça se voit au niveau du budget. Ça a l'air ricrac. Je sens que je vais adorer ça. Et puis dans un tout autre genre, j'attends un peu le prochain Noah Baumbach, qui est aussi une production Netflix. Et genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce mec ? Et j'aime bien en général Noah Baumbach quand il réalise pas les films où se trouve sa femme. Et donc là, il y a Adam Sandler, donc à moins qu'Adam, qui soit en couple avec Adam Sandler, je le sens bien. c'est ma toute petite shortlist. Il n'y a pas de film iranien, j'ai pas de grosses surprises comme ça, de film hongrois, de film machin. Moi, je reste comme très très collé à l'Asie et aux juifs new-yorkais, quoi.
D'accord.
Il y a une petite pique à mon encontre, je crois.
non, pas du tout. Ah, on a droit d'aimer tous les cinémas du monde, surtout ici, quoi.
Et donc toi, Lucille, alors toi, en revanche, c'est pas ton premier festival.
C'est mon 9e festival, ça veut dire que je commence à être une vieille sur place. Je connais...
Une vétéran.
Ouais,
vétéran.
une briscarde, en fait. je connais les plans cool, les plans moisis. J'ai connu les bières tièdes et les colocs où tout le monde ronfle. Mais c'est mieux maintenant.
Ah, c'est mieux maintenant. Tu n'es pas comme les gens qui disent à Daniel.
C'est mieux parce que plus on vient et mieux on s'en sort. C'est ça aussi le truc. Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai pas connu l'effet de Canal dans les années 90, donc je peux pas dire c'était mieux dans les années 90. mais non, mais Cannes, c'est toujours beau. Enfin, on va... Il faut arrêter de se plaindre deux secondes. Quoi. Il fait beau, on a connu des Cannes où il pleuvait. Il y a des films qui nous excitent, on a vu des Cannes avec des films moisis. Moi, tout va bien, je suis heureuse.
Alors, qu'est-ce que tu attends de ce festival ?
Alors, du coup, je vais enchaîner direct avec, pour faire plaisir à Daniel, je vais enchaîner avec Jupiter's Moon en compète, qui est un film de Cornel Mundruxo qui est hongrois.
Qui est donc tout de suite on part dans le cinéma, on y va.
Ça va être pointu là, je sens.
Mais ouais, parce que du coup en faisant des recherches sur le type, je me suis dit merde, j'ai vu combien de films hongrois dans ma vie, et en fait deux.
T'en as combien, Daniel, en
un film hongrois? Un petit peu plus, mais tu sais, parce que la Hongrie faisait partie du bloc QRSS, donc j'ai dû en voir plus.
T'as vu quelques nanars hongrois des années 80.
Ouais, voilà, quelques
dont
mais,
tu nous parleras.
Mais l'actu hongroise, je t'avoue que je suis blindside complet.
Alors, mais du coup, le mec a vraiment énormément de talent, et il y a quelques années, il nous avait tous bluffé avec White God, qui était un film sur les chiens qui prenaient un peu le pouvoir sur une sorte de film un peu d'anticipation extrêmement angoissant. Est très très bien réalisé, et j'ai eu le temps avant de préparer Cannes de voir ces films d'avant, plus anciens, plus compliqués à trouver, donc Delta, Tenderson et Johanna. Il a fait des choses très barrées, il est vraiment vraiment fou, et je pense qu'il peut, avec son histoire d'un migrant qui se fait tirer dessus alors qu'il traverse la frontière, qui découvre qu'il a le pouvoir de l'éviter, je pense que c'est dans les cornes de Mundruxo nous faire un truc à la fois magnifique et hyper fort politiquement et barré.
Ok, donc on va suivre ça. Rappelle-moi le titre.
Jupiter's Moon.
Jupiter's Moon, qui est en compétition.
Voilà. Du coup, okay. Ma deuxième grosse attente de compète, c'est 120 battements par minute de Robin Campillo, un Français, qui a fait le film Les Revenants, dont est tirée la série, et Eastern Boys, qui était un film qui avait une première partie complètement bluffante, quasiment muette, sur des jeunes garçons à la gare du Nord qui... qui se prostituait et qui hijackait l'appart d'un mec de 45 ans qui en avait alpagué un. Le film était très fort et assez angoissant. Et là, en fait, il part dans quelque chose d'un peu différent puisqu'il raconte les act-up dans les années 90. Donc, il part un peu dans quelque chose de beaucoup plus politique et dans... C'est pas du documentaire, mais ça raconte l'histoire. Avec Adèle Haenel. Et j'ai vu un extrait et je dois avouer que j'ai eu la chair de poule. Une scène d'attaque de laboratoire pharmaceutique où il jette du sang partout, et j'ai trouvé ça extrêmement fort. C'est toujours très clinique, Robin Campillo, et je pense qu'il peut nous faire quelque chose de très très bien.
D'accord.
Et mon troisième truc, c'est un petit film de la quinzaine dont je subodore que ça va être énorme. On en parle beaucoup parce qu'en général, il y a des petits films qui buzzent comme ça, et on dit toujours c'est le film qu'il faut voir, c'est le film qu'il faut voir, et là c'est un petit peu le cas. Ça s'appelle I'm Not a Witch. C'est un premier film zambien, donc qui concourt pour la Caméra d'Or, et qui raconte l'histoire d'une gamine de 8 ans qui est jugée de sorcellerie par un village entier en Zambie, et qui se voit obligée de rejoindre un village de sorcières, donc de nos jours. C'est magnifique visuellement, je pense, parce que les images sont splendides. On a eu des photos de production complètement bluffantes. Et vu les gens qui ont travaillé dessus et qui ont déjà été annoncés, dont la styliste Solange Knowles, donc la sœur de Beyoncé, qui est une quelqu'un qui a un style incroyable, je pense qu'on peut tabler sur quelque chose d'intéressant.
D'accord, donc ça c'est à la quinzaine des réalisateurs. D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu peux décrire un petit peu les différentes sélections resituer
Il y a les sélections officielles, du coup il y a la compétition qui est le truc où on monte les marches, où il y a toutes les stars et où il y a en général des réalisateurs dont on a déjà entendu parler. Mm-hmm. Il y a Un Certain Regard, donc des plus petites marches juste à côté, en général, en théorie, à l'origine, c'était pour faire redécouvrir des choses, des cinémas émergents, des jeunes réalisateurs, mais souvent, c'est une sous-compétition officielle. Mmh. Donc, il y a des choses de très bonne qualité, mais ça n'a pas réussi à monter en compète officielle.
Films, c'est un peu l'antichambre de la compétition.
Voilà, complètement. Et
c'est les Ligue B.
Il y a la quinzaine des réalisateurs.
Mais il y avait des grands films à Un Certain Regard. Hein.
Et moi, j'ai vu des très bonnes choses à Un Certain Regard.
On parlait, alors moi, j'arrive pas à prononcer Bong Joon-ho aussi bien que Daniel.
Moi, j'ai fait du Hanguk. Petite expérience coréenne.
Son film Mother était un certain regard.
On a vu des choses exceptionnelles à un certain regard, mais tous les ans, il y a toujours le film dont on dit, mais pourquoi il est là, pourquoi il n'est pas en compétition, et ça, comme c'est un peu politique aussi.
Il y a toujours le jeu aussi, les films parfois un peu plus audacieux. Thierry Frémaux a tendance à vouloir un peu les protéger, et du coup, à les mettre à un certain regard où ils sont moins exposés, et du coup, aussi moins exposés à se faire défoncer.
Si et le problème aussi, c'est que, en général, c'est des films qui sortent, on sait jamais, enfin, justement, on sait jamais quand ils sortent en salle en France, quoi. Je crois qu'à un certain regard, il y avait le Coréda l'année dernière.
Et il est sorti
il y a deux semaines. Genre, le timing, je comprends plus la chronologie des médias de ce canne.
Bah, en compétition, t'es sûr de sortir, et en général,
le
Coréda
qui s'appelle Après la tempête, ouais. Et qui est en salle en ce moment.
Et en certains regards, comme c'est des films qui sont un tout petit peu moins attendus et que le public attend un peu moins aussi,
j'attends toujours la sortie d'Arirang de Kim
Ki-duk. En même temps, c'est un peu spécial, faut quand même pas.
Film sur un réalisateur qui essaie de se suicider pendant deux ans.
Qui est juste bourré et tout, c'est passionnant comme film. Mais du coup.
Et du coup, tu terminais à laisser
du coup, voilà, donc la quinzaine des réalisateurs qui est très foisonnant. Il y a une vingtaine de films, beaucoup de films, et où il y a à la fois des nouveautés, des gens, bah là en l'occurrence comme ce premier film zambien, et des gens plus confirmés comme Claire Denis par exemple cette année. Et il y a aussi la semaine de la critique dont l'objectif est de sélectionner des films uniquement de premier ou deuxième film. Et d'accord. Donc en général, l'année dernière par exemple, il y avait eu Grave qui était sorti de la semaine de la critique. C'est vrai que ces dernières années, ils arrivent à faire vraiment bien buzzer sur leur sélection.
Ok, bah du coup, c'est
attends,
à moi.
J'ai oublié de parler de l'acide. On se fout de la gueule de l'acide sans arrêt, mais l'acide, c'est vachement intéressant.
Ouais.
C'est une petite compétition où on retrouve plein de très bonnes choses. Et là, vraiment, on est dans
essentiellement
la sous-sous
premiers films. Là, on
des
a
premiers films.
80% de premiers
des
films.
Des choses très étranges, des choses très expérimentales parfois. Mais c'est une compétition qui mérite qu'on s'y penche en général. Quand on a un vrai gros cinéphile, on regarde un peu ce qui se passe à l'acide. On n'a pas toujours le temps quand on est sur place, mais il faut regarder.
Ok, et bah
David,
du coup,
ta sélec.
Du coup, pour ma petite sélec, alors moi j'ai retenu, il y a plein de films, et je me suis fait une pareille comme Daniel et Lucille, une liste d'une trentaine, quarantaine de films qu'il faut absolument que je voie et que je vais essayer de caler dans mon agenda. J'en ai retenu quelques-uns, dont deux en compétition que j'attends particulièrement. Il y a un film de Michael Haneke qui s'appelle Happy End. Déjà, ça fait marrer.
C'est facile d'attendre une troisième Palme d'Or, tu vois.
Et oui, potentiellement.
Alors,
est-ce
que vraiment Almodovar va donner une troisième Palme d'Or à Haneke, lui qui n'aurait jamais eu
ça,
moi,
ça
je pense qu'il
ça
va
me paraît très très injuste.
Il va l'envoyer bouler. Moi, je pense qu'il va l'envoyer faire chier.
Et malgré tout, donc le film s'appelle Happy End, ce qui fait quand même déjà un peu marrer quand on connaît le cinéma de Michael Haneke. Et c'est l'histoire d'une famille de bourgeois du nord de la France qui sont confrontés à des camps de migrants. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir Michael Haneke traiter le sujet de bras ouverts avec Isabelle Huppert.
Tu me l'as bien vendu.
Et Mathieu Kassovitz. Donc, je pense que ça peut mettre quelques taquets avec quand même un sens à la fois de la mise en scène et du propos souvent très théorique de ces films. Si ça peut se rapprocher de quelque chose comme Caché, qui pour moi est son plus grand film, ça me plaira beaucoup. Et dans un autre genre, mais aussi un peu une forme de cinéma un peu théorique sur lequel on peut avoir une approche très analytique, il y a le film de Ruben Östlund, le Suédois Ruben Östlund, qui arrive avec un film de, je crois, 2h22 qui s'appelle The Square, que j'attends beaucoup. C'est un film qui a été rajouté au dernier moment en sélection, peut-être parce qu'il y avait des contraintes sur sa durée. Et c'est un cinéaste intéressant qui est toujours, pour moi, c'est un peu un cinéaste troll.
C'est d'un cynisme ces films, c'est terrible.
Alors ouais, je sais que Lucille aime pas beaucoup.
Ah, c'est une méchanceté son cinéma.
Et qui en fait crée souvent des dispositifs qui mettent à l'épreuve ses personnages. Il a fait. Ces deux derniers films notables, un premier film qui s'appelle Play, dont un des aspects intéressants est qu'il avait filmé en très très haute définition des plans fixes et qu'il a retravaillé en post-prod des mouvements de caméra à l'intérieur d'un cadre beaucoup plus large. Déjà, d'un point de vue cinéma et mise en scène, il y a quelque chose qui m'intéressait chez lui. Et puis, il a fait le film qui est sorti en France sous le titre Snow Therapy, qui était arrivé à Cannes avec le titre Force Majeure, et qui partait d'un une mise en place d'un dispositif assez marrant. C'est en gros l'histoire d'un père et de sa famille au sport d'hiver qui croient qu'une avalanche vient de se déclencher. Ils sont au restaurant d'altitude et lui, au lieu d'essayer de protéger sa famille, il se barre tout seul pour sauver sa peau avec son iPhone. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une fausse avalanche. Et donc, tout le film va raconter comment tu gères après avec ta famille, sachant que ta femme a vu que tu aurais été prêt
à l'abandonner. La totale médiocrité de ce personnage.
Je vois une vraie filiation avec un queue quand même.
Et il y a quelque chose, effectivement.
Et top 3 de la cruauté, donc.
et donc, je ne vais pas faire un top 3 de la cruauté, même si je pense que de la cruauté, on va en trouver. Et j'aurais pu aller du côté, par exemple, de Michel Franco.
Il y a un film de Michel Franco cette année. On a notre Mexicain préféré qui est Un certain regard.
Qui aussi est dans cette veine, mais après on va croire que je suis quelqu'un de très méchant, ce qui n'est pas vrai. donc je vais plutôt parler du fait que c'est le 70e Festival de Cannes, et que du coup c'est une édition anniversaire avec plein d'événements à côté, des événements peut-être dispensables comme le concert de M sur la plage. Enfin, je sais pas, vous comptez aller danser sur...
Tu viens de me mettre au courant, et donc à quelle heure il faut éviter la plage?
Le dimanche 21 mai. mais sinon, il y a pas mal d'événements plus cinéphiles, notamment Clint Eastwood va venir présenter une copie restaurée d'Impitoyable et faire une masterclass, une leçon de cinéma. Il y aura aussi une leçon de cinéma d'Alfonso Cuarón, qui, je pense, vaudra le détour. Iñárritu va venir présenter Alejandro Iñárritu, le réalisateur de The Revenant s'appelle son film qui a eu l'Oscar,
Birdman,
va présenter un court-métrage en VR. Et puis aussi un événement sur lequel on reviendra sûrement, c'est le David Lynch qui sera présent pour présenter les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Twin Peaks.
Mais que les gens auront sans doute vu...
Avant nous. Parce qu'il passe le 21 sur Showtime, et qu'à Cannes, je crois que la première projection est le 24.
Mais vu qu'on a du Wi-Fi dans nos studios, peut-être qu'on a un cousin américain qui va nous envoyer le...
C'est possible, parce qu'en plus on a des contacts.
Bah après, si je peux prendre deux secondes, il y a Jane Campion aussi qui va présenter la saison 2 de Top of the Lake dans le cadre de ces trucs hors compétition et séries.
Tout à fait. Ce qui va être très chouette. Jane Campion, et en plus, pour le coup, elle est moins radine que David Lynch, parce qu'elle, il y aura la saison complète. sans vouloir médire.
En intégrale dans la salle.
ça va peut-être être un peu long. Bon, donc voilà pour nos attentes, et du coup, on va pouvoir parler du film qui fait l'ouverture du Festival de Cannes, qui est un film d'Arnaud Desplechin, et qui s'appelle Les Fantômes d'Ismaël. C'est l'histoire d'Ismaël, donc un cinéaste joué par Mathieu Amalric, qui est déchiré entre deux femmes, sa compagne actuelle, qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, et sa femme, Marion Cotillard, qui a disparu depuis plus de 20 ans. Lucille, qu'est-ce que t'en as pensé?
C'est bien de commencer par moi, parce que alors moi je vais y aller franco. Pour moi, c'est vraiment un hymne à la vie, à l'amour, au présent et à l'avenir.
Ah,
on y va, franchement. Après, moi je suis acquise à la cause Desplechin, c'est vraiment un cinéaste qui me parle beaucoup. Son film précédent était Mineur, je suis complètement d'accord. Mais là, je trouve qu'il revient en puissance. Il se permet de repartir un peu aussi dans le segment le plus réussi de Trois souvenirs de ma jeunesse, dans quelque chose qui parle d'espionnage. Dans des pays lointains, ça parle un peu de Russie en l'occurrence, mais d'autres pays aussi. On est vraiment dans un film somme des fantômes de Desplechin, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les prénoms et les noms des personnages forts dans son, c'est quoi, c'est même pas un bestiaire, c'est sa famille quoi. Dans les maisons de Roubaix qui sont chez lui, on est dans ces thématiques, et je trouve que là, pour la première fois depuis longtemps, parce que moi je revois beaucoup souvent, parce que j'aime beaucoup Roi et Reine et Un conte de Noël, je trouve que c'est un film positif. Je trouve que c'est un film solaire, c'est un film qui se dit pas que nos amours de jeunesse étaient beaucoup plus beaux que nos amours de maintenant. C'est un film qui regarde vers l'avenir, et je trouve ça vachement intéressant. Après, les personnages continuent de parler pendant quatre plombes. On est encore sur des gens qui boivent et qui pleurent et qui savent pas où ils en sont. Amalric fait Amalric, personnage d'Amalric de Desplechin de base. Il est délicieux dans ce rôle, mais je trouve que pour la première fois, je suis sortie, j'avais la patate. J'avais un peu envie de pleurer parce que j'étais émue. Et vraiment, je me suis dit, j'étais contente pour lui. J'étais contente parce qu'on sent qu'il est bien, il est heureux.
Je vois Daniel qui fait une petite grimace, une petite moue.
Du tout, du tout. Je suis ravi de l'emballement et
je suis toute seule. Hein. Je tiens à le dire, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu partout, je suis toute seule.
Et je vais te laisser toute seule sur ce coup-ci parce que en fait, je comprends exactement ce qui se passe dans le Desplechin universe. Et il est en
train Desplechin verse.
Ouais, il est en train de faire un univers partagé. Il y a vraiment une chronologie et tous les fanboys et les fangirls. Ils applaudissent. Il fait vraiment ce que les fans de Desplechin ont envie de voir, quoi. C'est-à-dire la référence, les prénoms, les gens qui citent tout d'un coup. Il y a un tableau, il est cité. Il y a un truc très
le côté un peu intellectualiste,
un peu presse universitaire, tu vois, ouais. Un petit peu comme ça.
Toujours avec son rap, sa musique urbaine. C'est bien, on est complètement dans les marqueurs Desplechin, quoi.
Il pourrait même faire un film avec des annotations. En fait, je pense que c'est un film qui gagnerait à être en
Blu-ray. Des petites notes de bas de page.
Un film avec les trois quarts de la page et des notes de bas de page.
En Blu-ray, tu sais, avec des trucs qui apparaissent et qui disent ah là, ou alors il faut qu'il te rebalance sur la chronologie. Parallèle de Trois Souvenirs ou de Contes de Noël. Je pense que c'est un mec qui est arrivé à son paroxysme avec Contes de Noël. C'est mon Desplechin préféré de très très loin.
Je suis d'accord avec toi.
Je déteste Roi Eren. Et puis depuis, il essaye, il fait des expériences. Et là, en fait, c'est comme s'il prenait ses personnages, en fait. Et il faisait des hors-séries à chaque fois. Alors, la dernière fois, c'était dans Trois Souvenirs de ma jeunesse. Il revisitait l'adolescence. Là, ce coup-ci, c'est l'espionnage. Il y a un petit peu d'espionnage, il y a un petit peu de machin. Il y a un film dans le film. Et il faut dire un truc, c'est qu'on a eu une version un peu cut, en fait, à Cannes, puisqu'on lui a fait « Hey, Coco, est-ce que tu peux raccourcir le film ?» Et ça se voit, il y a des moments où je crois que c'est la séquence où Amalric se fait foutre dans le coffre. Et tu sens que c'est cut sur cut sur cut sur cut. Et tu sens que ça a été accéléré. Et ça rend pas mal, en fait. C'est le meilleur passage du film. C'est les moments où tu vois que ça a été un peu coupé et que ça a été accéléré.
Le film est meilleur coupé.
Parce que, alors moi, il y a un truc qui m'a toujours plu et qui me fascine dans le cinéma Desplechin et qui je trouve, c'est un peu affadi dans celui-là. C'est la notion de vitesse, la vitesse du récit. Et je vais dire un truc peut-être un peu bizarre, mais pour moi, c'est Arnaud Desplechin, c'est le plus proche de ce qu'on peut espérer dans le cinéma français de ce que serait Martin Scorsese. En fait, dans le fait d'avoir un récit vraiment très... à la fois souvent porté en off, et alors, quand je pense à Scorsese, je pense au Scorsese de Casino ou des Affranchis, hein, et qui en fait fait porter vraiment un mouvement de vitesse par un découpage parfois assez cut mais surtout très élancé et en fait je trouve que là il utilise pas mal d'effets de mise en scène, des raccords dans l'axe, des fondus, des choses comme ça qui déstructure un petit peu ce qu'on est en train de voir et qui aussi joue sur le fait que finalement on peut mélanger des formes de réalité à la fois le film à l'intérieur du film, à la fois est-ce que
il ne dit pas tout, ouais, clairement.
Est-ce que le personnage de Marion Cotillard, au début on peut se demander est-ce qu'elle existe vraiment ou pas, et en fait je trouve qu'il a peut-être perdu un peu d'énergie, qu'il est passé depuis Trois Souvenirs de ma jeunesse dans une autre forme, qui en tout cas moi me plaît moins, et que finalement un des grands mérites de Desplechin, à mon avis, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais c'est d'avoir entre guillemets inventé Mathieu Amalric. Et là, je trouve qu'on est arrivé un peu au bout de Mathieu Amalric. Il a des scènes de colère que je trouve.
Il est devenu le Bakri de, tu vois.
Il est devenu le Bakri de Desplechin.
Oui, c'est genre la caricature de lui-même. À certains moments, tu as envie de dire Mathieu, c'est bon, arrête, tu as gagné, tu maîtrises ton personnage. Moi, j'ai un petit souci avec Marion Cotillard. Et alors, contrairement à plein de gens, il y a des films où vraiment elle joue bien. Et là, ce coup-ci, elle joue vraiment un peu chippy pétasse.
Bah, elle joue un personnage hyper insupportable. Elle est là, de toute façon.
Est-ce que je peux récupérer mon mari? Est-ce que je peux? Elle est toujours un petit peu. T'as envie de la baffer, enfin, tu comprends pourquoi Charlotte Gainsbourg a envie de la baffer.
Mais moi, je trouve que c'est le seul personnage qui n'est pas complètement de l'univers Desplechin dans le film. Je trouve que Charlotte Gainsbourg, c'est une première pour elle d'être dans un film de Desplechin, qui d'habitude fait beaucoup jouer les mêmes acteurs. Elle rentre vraiment bien dedans. On comprend tout à fait son personnage et où il va. Et je trouve que ça marche très très bien. Par contre, Cotillard, pour moi, à la fois dans le personnage et dans l'écriture du perso et dans la façon dont elle le joue, elle n'est pas dans l'univers. D'ailleurs, c'est un élément perturbateur complet. Et on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que moi, je ne suis pas forcément fan de Cotillard d'habitude. Le fait qu'elle joue ça ne me dérange pas du tout.
Ah, on est vraiment opposé là.
je me dis, tiens, c'est Cotillard insupportable. Ah bon, d'accord.
Et encore une fois, c'est l'histoire quand même de deux meufs très jolie
qui se battent pour un mec
qui est quand même très très sale
qui reste hyper sexe parce que son côté sale maintenant ouais mais c'est ça, le côté sale marche, le côté artiste maudit sale marche très bien. Et c'est vrai que j'aime bien ce truc aussi, cette réflexion nouvelle qu'il a sur le cinéma, sur la réalisation, sur le fait d'avoir mis un personnage réalisateur dont il dit pas d'ailleurs qu'il est réalisateur mais fabricant de films, qui est une petite coquetterie de Desplechin. Je trouve ça intéressant.
Oui, parce qu'il y a autre chose. D'ailleurs, je faisais le parallèle avec Scorsese, mais en fait, c'est dans ma tête, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je pense que tout en faisant du cinéma très français, très cinéma d'universitaire en chambre de bonne, il le fait avec une approche qui est presque celle des films de genre ou des films de gangsters à la Scorsese. Et pour moi, ce que j'appréciais chez lui, c'est d'être dans une doctrine de filmer les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour, sauf que lui filme surtout des scènes d'amour, des scènes de relations la plupart du temps hétérosexuelles, donc un garçon qui drague une fille.
En général,
Amalric. Et ce mouvement-là, c'est-à-dire montrer une scène de drague, ce qui n'a l'air de rien, pour moi, il excelle vraiment dans ce domaine. Et c'est là-dedans qu'il est vraiment très bon. Et je trouve un petit peu en dessous dans ce film. J'ai moins été emballé par le charme qui crée à l'écran. Alors après, il y a quelques petits moments où je trouve que ça fonctionne, quelques répliques qui tombent juste. Mais voilà, certains des éléments, moi je suis pas d'accord avec ce que tu disais, Daniel, sur le fait que c'est le film ultime des fanboys de Desplechin, justement parce que à ce niveau-là, c'est un petit peu décevant. Je trouve que
il leur donne le matos pour aimer, hein, en tout cas.
Ouais, voilà, mais en étant un peu décevant, c'est-à-dire qu'il est plus au top de sa forme, notamment sur la langue, c'est-à-dire qu'il c'est quelqu'un qui trouve écrit très bien et arrive à mettre dans la bouche de ses personnages des répliques extraordinaires, souvent des monologues mémorables, etc. Et que là, voilà, je suis resté un petit peu sur ma faim et surtout, je me demande comment ça va être reçu par le festivalier du monde entier, lambda, qui va péter un câble devant ce film.
C'est hors compétition.
Il est maudit à Cannes, il a jamais eu un prix et globalement, il est détesté par les internationaux. C'est toujours. Et là, c'est typique.
Mais je pense que tu as trouvé un bon pitch commercial quand même pour Desplechin, qui est le Scorsese de Roubaix.
Voilà, qui est bien.
Ça lui plairait en plus, je suis sûr.
Et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Du coup, c'était Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma, en partenariat avec Binge Audio. Merci, au revoir.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.